Ce qui me permet de répondre à une question que j'ai sous les yeux. Mais quand on a quelque chose à confesser, des pensées dont on a honte ou des actions dont on a honte, mais sans imaginer quels sont les péchés qu'il peut faire lui aussi, sachez simplement que lui aussi est pécheur. Et que c'est peut-être pas sa vie n'est peut-être pas plus glorieuse que celle de celui qui se confesse. Peut-être pas pire non plus. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas à analyser. Je vous dis ça avec humour, bien sûr, mais c'est pas l'argument. Et c'est pas l'argument essentiel. Mais c'est pour vous dire, quand vous vous confessez, n'ayez pas peur de devant celui qui se confesse. Et qu'est-ce qu'il faut révéler? Il faut révéler précisément précisément, c'est-à-dire justement, il faut révéler les pensées que l'on n'a pas envie de révéler, parce qu'on les estime pas assez belles. C'est plus facile de confesser qu'au lieu de faire 6 heures de prière nocturne, on n'en a fait que 5 heures et demie. Ça, c'est d'une confession qui coûte pas grand-chose. Plutôt que de confesser qu'on a tué sa voisine parce qu'elle ronflait trop fort, et encore avec un couteau mal aiguisé. Quand on révèle quelque chose à un confesseur, il faut tout révéler. Mais ce n'est pas la peine non plus d'amener tous les détails les plus croustillants. Qui pourrait éventuellement aussi, parce que c'est un homme comme tous les hommes, il pourrait aussi avoir, vous pourriez lui communiquer les mêmes pensées ou les mêmes envies. Et ce n'est pas la peine de le tenter artificiellement, parce qu'il n'est pas forcément plus fort que vous. Enfin, plus fort que vous, c'est-à-dire vous qui vous confessez. Et donc, le principe, si vous voulez, c'est effectivement de ne rien cacher en soi, d'expliquer sommairement. Mais clairement, quand même, de quoi il retourne. Comprenez bien que confesser en disant j'étais infidèle à ma femme, ça peut recouvrir une foule de choses. Avec quoi? Avec une chèvre? Simplement parce que je lui ai menti sur le nombre de cigarettes que je fumais dans la journée et tout ce qu'il y a entre deux. Il faut quand même un peu préciser, si vous voulez, mais sans donner, je vous dis, les détails qui peuvent faire envie sauf si ça change quelque chose au fait lui-même. Je dis pas la gravité, parce que ce qui est important dans la confession, ce n'est pas de révéler la gravité de la faute, c'est de révéler l'état ou la profondeur relative du repentir que l'on a. Mais le repentir ne s'exprime pas de la même manière. Suivant, c'est le repentir d'avoir pris trois cigarettes de plus et de l'avoir caché à ma femme, ou effectivement de l'avoir trompé avec 5 autres femmes la même nuit. Mis à part toute forme de plaisanterie qui me facilite qui facilite, pour moi, facilite, pour vous expliquer ce que je voudrais vous expliquer, qui ne sont pas des sujets aisés. D'une part, n'ayez pas peur, mais confessez-vous du fond du cœur. Choisissez évidemment votre confesseur. Si vous savez qu'il y en a un, enfin, en fonction de votre personnalité spirituelle, certains choisissent un confesseur très sévère. Parce qu'ils savent que ça va être utile pour le salut. D'autres choisissent un confesseur qui a une réputation je sais pas, de naïveté, parce que ça va leur permettre d'exprimer quelque chose qu'il n'arriverait pas à exprimer à quelqu'un d'autre. À condition que ce ne soit pas par malhonnêteté, pas pour cacher quelque chose. Tous les confesseurs ne sont pas forcément meilleurs que vous. La preuve en est d'un confesseur qui a une toute petite expérience et qui est devant vous en ce moment, qui, lorsqu'il était enfant, se confessait dans une chapelle auprès d'une grande route, une grande nationale, par où passaient tous les camions qui portaient des bouteilles de gaz. Et à ce moment-là, les bouteilles de gaz étaient directement sur le métal des remorques. Et la route n'était pas encore goudronnée, elle était encore pavée. Et inutile de vous dire, quand les camions de Port-Jérôme, de la raffinerie de Rouennaise, passaient par là, ce qui était fréquent à certaines heures, c'est à ce moment-là que le galopin dont je vous parle, évidemment vous ne devinerez jamais qui c'est, en profitait pour dire ce qu'il estimait le plus gros et qu'il n'osait pas dire au prêtre qui de toute manière était sourd. Alors, Mais ce n'est pas un exemple à suivre. Je le confesse aujourd'hui. Allez, pour ce sujet-là, je pense que c'est bon. L'autre sujet, c'est l'épître d'aujourd'hui. C'est au sujet de l'épître et donc de ce matin. Que, je le résume comme ça, ce n'est pas la pratique de la loi qui peut nous apporter le salut, mais c'est la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas en accomplissant les choses légales, les commandements de Dieu ou ceux qu'on appelle les commandements de l'Église, c'est pas cette obéissance-là qui sauve, c'est la foi. Mais qu'est-ce que c'est que la foi ? Ça semble souvent facile. Si c'est la... Quand on vous pose la question, avez-vous la foi ? Ou quand on vous pose la question, est-ce que vous avez la foi ? Qu'est-ce que c'est que la foi ? Ça dépend de la foi en quoi d'abord ? Ou ça dépend de la foi en qui ? Si vous avez foi en Allah, je doute fort que ça vous amène le salut. Si vous avez foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ça peut être davantage. Je ne veux pas blasphémer en disant davantage. Je veux dire oui. Mais qu'est-ce que c'est que la foi aussi ? Est-ce que c'est simplement d'une adhésion à une forme à un système théologique ? Si c'est ça, comment cette foi-là peut-elle sauver ? Pas plus que la loi. Donc, si je puis dire, peut-être bien qu'il y a foi, puis qu'il y a peut-être bien qu'il y a foi aussi. Il y a deux fois. Ça dépend ce qu'on entend par la foi. La foi, c'est l'adhésion. C'est pas simplement croire en l'occurrence, Dieu, unique et trois personnes, mais c'est vivre selon notre foi. Dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, nous voyons que la femme atteinte d'un flux de sang, s'approche de Jésus et le touche. Le contact est important. Le contact, c'est-à-dire que si elle le touche, elle ne savait pas qu'une force sortirait de Jésus comme il l'exprime lui. Mais ça montre qu'elle cherche à faire un avec lui, autant qu'il est possible de faire, par l'attouchement simplement. Mais il y a une volonté de s'approcher, d'entrer en lui, de participer à sa vie. Et la foi qui nous sauve, c'est la foi qui consiste à vivre comme le Christ, avec le Christ, pour le Christ, pour qu'il nous conduise vers Dieu. Sinon, Sinon, c'est un système, simplement, un système de pensée, un système théologique. Et ce que je vous dis sur la foi, je ne le tire pas de moi-même, mais le Saint Paul l'exprime toujours dans la même épître, à la suite, dans quelques versets après. Par la loi, je suis mort, afin de vivre à la loi, afin de vivre pour Dieu. Mais je suis, moi, crucifié par ma foi. Je suis crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que la foi, c'est cette espèce de transfert de vie, ce transfert que nous acceptons librement, auquel nous préparons, mais que nous ne pouvons pas diriger, que nous ne sommes pas maîtres directement, du transfert de la vie du Christ dans la mienne. Mais si je dois transférer ou dois laisser transférer la vie du Christ dans la mienne, il faut que la mienne disparaisse. Et évidemment pas par le suicide, c'est bien évident, mais par un transfert de volonté, un transfert de une kénose personnelle. De même que le Christ, en venant sur terre, en s'incarnant, le Verbe de Dieu en s'incarnant, renonce à ses prérogatives divines, si je peux les appeler comme cela, pour être en tout un homme comme tous les hommes, tout en gardant sa nature vivante, de sa nature divine. Et il renonce à sa volonté pour faire obéissance à son Père d'abord et aux hommes qu'il conduit jusqu'au martyr, comme nous savons. Mais nous, les hommes qui par la foi voulons et devons vivre comme le Christ, il faut que nous accomplissions la même chose, que nous abandonnions nous aussi notre volonté, notre individualité, j'allais dire, notre quant à soi, pour adopter la personnalité et la vie du Christ, de manière à ce que mes pensées, je me mets à la place de chacun, que mes pensées ne soient plus mes pensées, mais soient les pensées du Christ, que mes actions ne soient pas mes actions, mais les actions du Christ. Ce qui nécessite évidemment tout ce que l'Église met à notre disposition comme moyen, qu'on appelle les moyens, la 16, si vous voulez, qui passe à la fois par la prière, qui n'est pas que de la 16, mais qui est aussi de la prière. La prière étant cette de présentation devant Dieu qui nous fait désirer, attendre et recevoir, même si c'est insensible, la grâce de Dieu, son illumination, son inspiration, et qui nous fait, par un mouvement intérieur, nous désolidariser, c'est pas le bon terme, mais nous fait abandonner, nous fait ne pas préférer ce que moi je veux, mais ce que lui veut, avec ses rythmes, mais avec ses rythmes propres, ses cheminements propres. Et ainsi, notre prière consiste dans ce cas-là à finalement, au-delà de tout mot, de tout sentiment, nous présenter devant Dieu et lui rendre grâce. Ce que tu fais est bien. Si j'étais à ta place, je ferais certainement autrement. Ça, je le dis un peu avec humour aussi. C'est-à-dire que je renonce à la manière dont moi j'aimerais que ça se fasse, mais j'accepte avec joie par avance que ça se fasse comme lui, le Seigneur, sait que ça doit se faire et qu'il organise à travers les circonstances dans la vie, même à travers les contraintes qui peuvent être les nôtres, contraintes qui peuvent subvenir par des forces contraires à ce qui nous semble logique, des ordres, une politique, un déséquilibre extérieur ou intérieur, quel que soit mais à travers cela, c'est là, Dieu est à l'œuvre, et dans la mesure où ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit qui vit en moi, je peux être sûr, et là la foi me sauve, là, je peux être sûr que ce transfert en Christ, cet abandon de mon être, de ma volonté d'être, fait que le Christ parvient à ses fins, parvient à son but, qui est le salut du monde entier et le mien aussi. C'est ainsi que la foi nous sauve. Mais tout ça pour vous dire que la foi, c'est vraiment pas une pensée, pas une manière de penser, c'est pas une croyance. Elle suppose évidemment une croyance, mais plus que la croyance, elle est un genre de vie, un mode de vie conforme à celui qui est notre maître, le Christ. Et d'apprendre à le toucher comme la femme dont sortait un flux de sang, que nous racontait l'évangéliste aujourd'hui, de le toucher de manière à ce que cette force qui sort de lui vienne en nous aussi. Et autant l'huile a senti cette force qui sortait de lui, et la femme a senti immédiatement la guérison, nous n'avons pas toujours la sensation de l'efficacité de notre prière, mais notre prière est toujours efficace, mais elle est toujours efficace, mais à la manière dont Dieu sait qu'il est bon pour nous d'intervenir. Et Dieu nous laisse libres. Et c'est pour cela qu'il ne se manifeste pas bruyamment. C'est pour ça qu'il ne se montre pas directement à nous. C'est pour ça qu'il ne nous parle pas directement à l'oreille ou qu'il ne nous insuffle même pas des pensées au moment même de la prière. Nous avons connu, il y a longtemps de ça, un jeune garçon qui nous faisait cette confidence que lorsque il voulait quelque chose, il le demandait au diable parce qu'il était sûr d'être servi plus rapidement qu'avec Dieu. C'est horrible, c'est horrible. Mais si je prends cet exemple-là, c'est pour vous montrer que les puissances angéliques, là en l'occurrence mauvaises, mais les puissances angéliques sont efficaces. Simplement, les bons anges et Dieu nous laissent libres, pour ça que discrètement, ils nous montrent ce qu'il faut faire avec patience, de manière à ce qu'on ait le temps de changer. On a une vie entière pour changer. Alors que les démons, eux, violent notre conscience, violent notre pensée. Et quand les démons se manifestent par des pensées mauvaises, par des tentations néfastes, ils nous l'imposent. On n'est plus maître de nous. À partir du moment où on sent qu'on n'est plus maître de nous, on sait que ça vient du diable, des démons. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une tentation qui se manifeste, dès qu'il y a une pensée qui se manifeste, aussitôt, il faut rompre avec cette pensée-là, sans la laisser prendre racine. Et je pense que c'est dimanche dernier, nous disions que nous avons justement, puisque nous parlons de ce garçon qui invoquait le diable, et je peux vous dire qu'il était exaucé, et c'est pas le même que celui qui allait se confesser pendant que les camions passaient. Les anges, nous avons pouvons avoir recours aux anges, aux saints anges et à notre ange gardien. Et si dès le début, dès que la pensée, on supplie, on implore dans le fond de son cœur l'intervention des anges, immédiatement les armées angéliques font une barrière devant nous et immédiatement ils coupent la pensée ou la tentation. Quelquefois il faut recommencer 30 secondes après ou 10 minutes après, certes, mais justement parce que les bons anges nous laissent libres aussi. On est venu t'aider à surmonter la difficulté. Tu veux retomber dedans, si tu veux retomber dedans, vas-y. On ne peut pas t'en empêcher. Mais si on leur demande encore, Une intervention ne suffit pas, il en faut une deuxième. Ils reviennent inlassablement. 77 fois, cette foi. Et c'est ça. C'est ça, avoir la foi. C'est-à-dire vouloir vivre, malgré notre faiblesse, vouloir vivre de la vie du Christ. C'est facile. Ça devient de moins en moins facile dans le monde parce que nous sommes de plus en plus déséquilibrés. Les premiers hommes, quand ils sortaient du paradis, ils avaient beaucoup plus de facilité, ce qu'ils n'avaient pas empêché de tomber avant, parce qu'ils étaient encore saints saints d'esprit, S-A-I-N, S, santé. Et alors que depuis que le péché est arrivé, la maladie spirituelle est arrivée dans le monde. Et plus nous avançons, plus nous sommes profondément malades. Et cette maladie-là fait que nous sommes paralysés et nous ne sommes plus maîtres de nos pensées et de nos actions. Quelqu'un me rapportait ces jours-ci que les scientifiques, qui ne sont pas toujours ma référence, mais disent qu'aujourd'hui, l'homme n'utiliserait plus que 10% de ses capacités mentales, de ses capacités, 10% seulement. Et avant, c'était 90%, puis 89%, puis 88%, puis 87%, enfin, je ne vais pas calculer. Donc, il ne faut pas s'étonner que nous soyons plus faibles. Mais Dieu n'attend pas que nous retrouvions notre pureté totale. Il attend simplement que des 10% qui nous restent, nous faisions un petit peu quelque chose pour essayer de vivre avec 11%, 1% de plus. C'est toute la parabole des talents que vous connaissez. Mais ces talents mis en exercice ont pour but de nous faire entrer dans la vie du Christ qui est tellement humble qu'il ne répugne pas à descendre chez des pécheurs. Et nous sommes peut-être pécheurs, nous sommes peut-être du sel à Fadi, nous n'avons peut-être plus que 10% et peut-être moins de facultés par hérédité et aussi par notre faute. Simplement, si nous lui demandons par l'intermédiaire des saints anges, par l'intercession de tous les saints que nous fêtons tous les jours et dont nous avons des préférences, des proximités plus ou moins importantes avec l'un ou avec l'autre, par leur intercession, on peut s'approcher effectivement et toucher du doigt le Christ comme la femme cananéenne. Et c'est par cet attouchement-là que le Christ nous sauve et qu'il passe en nous, que sa force sort de lui comme en une extase pour venir nous remplir et nous réchauffer. Mais avec discrétion, qui nécessite évidemment la réponse de notre part, la constance, la résolution, la lutte perpétuelle, revenir, toujours revenir à Dieu, ça dans la prière comme dans le repentir. Et c'est ça qui sauve, c'est comme ça qu'on devient un autre à être le Christ, à vivre de la vie du Christ et avec le Christ. À lui soit la gloire, avec son Père éternel et l'Esprit très saint, vivant et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.